RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV 5 Monde. C'est avec Fatimata Wansania de France 24, Maria Malagardis de Libération et Francis Laloupo d'Africa numéro 1. Deux sujets au menu de cette édition. Le Mali, où le président Ibeka reporte au Sénégal, c'est-à-dire à une date inconnue, son projet de révision constitutionnelle, une initiative qui s'est heurtée, on le sait, à forte opposition. La Guinée équatoriale, le vice-président Teodoro Nguema, alias Théodorine, jugée ici à Paris pour bien mal acquis, une première judiciaire visant en France un dirigeant africain, une procédure bien entendu contestée par Malabo. D'abord le Mali donc, et cette décision du président Ibrahim Boubacar Keïta de retirer finalement des tuyaux, son projet de révision constitutionnelle très controversé. Maria, les Maliens n'iront donc pas aux urnes le 9 juillet, pas de révision constitutionnelle en tout cas pour l'instant, donc pas de référendum face à une fronde qui prenait de plus en plus d'ampleur, y compris fronde qui avait gagné le propre camp d'Ibeka. La question est de savoir finalement pourquoi il s'est enferré dans cette galère et puis pour finalement renoncer, alors que ce projet effectivement n'avait pas apparemment fait l'objet de consultations avec les partis politiques et les représentants de la société civile, en tout cas en amont.
Il a peut-être tenté un coup qui s'est heurté à une résistance qu'il n'attendait pas. J'ai parlé avec pas mal de Maliens cette semaine et ce qui m'a frappé, c'est que des gens même assez peu politisés disaient on n'avait jamais vu ça depuis la chute de Moussa Traoré. Je crois qu'il a réussi, en tout cas, à cristalliser un malaise qui était assez diffus et une colère qui ne s'exprimait pas réellement, qui était multiforme, qui pouvait être sociale, qui pouvait être à la situation qui perdure au nord et gangrène maintenant le centre du pays. Et sur ce projet de révision de la Constitution et de référendum, voilà, il a tout d'un coup réussi à provoquer une mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis des années. Ce qui est frappant avec le Mali, c'est que au moins à Bamako, les signes extérieurs du pouvoir montrent exactement la réalité cruelle qui existe dans ce pays.
C'est-à-dire les 4x4 climatisés
je pense à la colline sur laquelle vit le président Koulouba.
C'est-à-dire décroché des réalités.
Totalement décroché des réalités. Et quand on arrive à Koulouba, c'est très frappant de voir la différence vertigineuse d'ambiance, de cadre qui existe avec la réalité. Là, on se trouve soudain dans un espèce de décor, parce que c'est un petit village, c'est pas que le palais, qui est complètement en dehors des réalités que vivent les Maliens, c'est qui ça. Est joli comme tout, c'est très vert, c'est très propre, c'est silencieux, il n'y a pas un gramme de poussière. Et je pense que ce que ça raconte, cette histoire de référendum qui est retiré un peu dans la précipitation, c'est la déconnexion croissante et totale des dirigeants maliens par rapport à la population.
Fatimata ?
Alors, peut-être rappeler pourquoi est-ce que Ibeka voulait cette réforme constitutionnelle. Au point de départ, il y a ces accords d'Alger,
oui, donc c'est bien sûr
rétablir la paix entre le Mali du Nord, donc le MNLA et Bamako. Donc ces accords ont été signés le 20 juin 2015 et jusqu'à présent, donc on est 2 ans plus tard, c'est toujours pas appliqué. Ibeka argue
mais en quoi ce référendum constitutionnel pouvait faire avancer les choses.
Il argue justement que l'application de ces accords doivent générer ou en tout cas pousser à une décentralisation plus grande. Il accorde 5 régions autonomes donc avec des pouvoirs élargis notamment dans le nord, réintégrer les ex-rebelles, etc. Donc tout ça nécessitait un changement de constitution, selon lui. Voilà, ça c'est le point de départ. Après, on voit que ces accords ont été négociés à la hâte, que le MNLA et le groupe dans lequel ils se sont, le CMU, ils sont complètement divisés, etc. Et qu'il y a des rebelles, il y a dedans, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Que ces accords ont été mal négociés, obtenus au forceps, et qu'une paix, finalement, ça ne s'obtient pas au forceps, et que c'est difficile à intégrer dans une réforme constitutionnelle.
Francis, il y a aussi les reproches de tentation de vouloir renforcer les pouvoirs du chef de l'État à travers ce projet de réforme constitutionnelle avorté, en tout cas pour l'instant.
Oui, en créant un Sénat et une Cour des comptes. Mais en fait, ça, c'est l'appliquage de la forêt en réalité, parce que il est évident que le pouvoir n'est jamais arrivé à convaincre l'opinion que cette nouvelle constitution allait faire avancer la cause de la paix. C'est évident que l'idée que la mise en place d'une constitution était prévue par l'accord d'Alger.
De
la paix d'Alger, hein, qui a été donc signé il y a 2 ans, évidemment, c'est, l'argument était un peu faible.
Accord qui prend de l'eau de toutes parts.
Voilà. En plus, il n'a jamais été appliqué, hein, par la mise en place laborieuse des fameuses autorités intérimaires. Mais il faut d'abord rappeler que les Maliens sont très attachés à la constitution de 1992, qui a quand même consacré l'instauration de la démocratie dans ce pays. Et que jusqu'à nouvel ordre, rien aujourd'hui n'est venu bousculer cette constitution pour la remettre en question. D'autant que il y a quand même un article, l'article 118 alinéa 3 de cette constitution de 92, qui stipule très clairement que cette constitution ne peut pas être modifiée, ne peut pas être changée si le pays est confronté à une situation sécuritaire,
exceptionnelle,
notamment d'occupation, ce qui est le cas quand même actuellement.
Bien sûr.
Voilà donc un pays, le Mali aujourd'hui, où un pouvoir isolé sur la colline de Koulouba, déconnecté de sa population, est amené à trouver les moyens nécessaires, une articulation la plus juste entre la gestion de son territoire et la gestion d'une partie du territoire malienne par des forces extérieures, notamment la MINUSMA et Barkhane, et tout en prenant en compte le fait qu'une partie du territoire est absolument hors du contrôle à la fois de l'État, des forces françaises et de la MINUSMA. Ouais. Je pense qu'il y avait plus urgent à faire que de se lancer dans cette initiative qui était absolument périlleuse. Et le fait que Ibrahim Boubacar Keïta ait retiré, reporté sine die ce référendum, c'était la démarche la plus sage, évidemment. Heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas tombé, évidemment. On a vu sous d'autres cieux africains des régimes qui, dans ce genre de situation, préfèrent, je dirais, engager un bras de fer avec leur population.
Ouais. Alors, Maria, on l'aura constaté, peut-être qu'à travers ce référendum, IBK cherchait aussi à exister, puisqu'il ne contrôle pas totalement la situation sécuritaire du pays. C'est délégué aux forces françaises, c'est délégué à l'ONU. Par ailleurs, l'opposant, Souleyma Cissé, parlait de l'environnement sécuritaire, avec des attaques qui se succèdent quasiment chaque semaine maintenant, le nord, le centre. Mais il est fort à parier que, malheureusement, cette situation sécuritaire sera la même, peut-être dans un an, au moment de la présidentielle, et que c'est peut-être là aussi un handicap politique pour IBK, qui sans doute va chercher à se réélire.
À la limite, on aurait pu le dire déjà pour le référendum, parce que c'est une vaste blague d'organiser un référendum dans un pays où, au moins dans la majorité du Nord, l'État malien continue à être relativement inexistant. Je crois que le dernier chiffre, c'est dans le Nord, 36%
hors contrôle
de
l'administration centrale.
Donc, en réalité, même le référendum était compliqué à organiser. Alors bien sûr, l'année prochaine, il y a les présidentielles. D'ici là, c'est difficile de faire des prévisions sur des situations qui sont forcément très mouvantes, mais pour l'instant, c'est effectivement très inquiétant. D'autant plus que la plupart de ces attaques ne sont même pas répertoriées.
Signalées, connues.
C'est des escarmouches continuelles. On a vu, alors, évidemment, quand il y a des attaques à Bamako, la capitale, comme ça s'est passé dimanche dernier. Évidemment, tout d'un coup, là, on rappelle que 2 jours auparavant, une base militaire a été attaquée. Mais le quotidien, quand on parle aux gens qui soit vivent dans le Nord, soit y vont régulièrement, c'est quelque chose de quotidien. Et quelquefois, il n'y a pas de mort, il y a juste un obus qui est tiré.
Mais c'est quand même ce sont des traumatismes, évidemment, pour les populations.
Ce sont des traumatismes, et ça demanderait, en réalité, un moment de se poser la question de la stratégie suivie, de la stratégie militaire suivie. Mais le problème, c'est que de tous côtés, on est dans une espèce de méthode couée, que ce soit du côté du pouvoir malien, que ce soit du côté
des
forces françaises ou de la MINUSMA. La gravité de la situation n'est pas encore exprimée et reconnue.
Un dernier mot, Fatimata, sur le Mali.
Alors, justement, je voulais parler du texte lui-même qui est proposé. C'est intéressant. Alors, l'opposition, alors qui est un ensemble aussi un peu hétérogène. Il y a des anciens partenaires hein, d'IBK et de la majorité dite présidentielle. Il y en a qui se sont exclus et qui ont formé des partis. Et c'est intéressant, ils n'ont qu'un seul député. Enfin bon, sur le total des députés, il y a la moitié sont donc appartiennent à la majorité présidentielle. Et là, ce qu'ils voudraient faire dans ces changements, c'est pour obtenir ces fameux trois quarts hein, de quorum qu'il n'a pas, parce que là, il a la majorité. C'est d'abord bon, nommer le président de la Cour constitutionnelle. Ça pourrait éventuellement, vu que c'est lui qui valide les résultats in fine de l'élection présidentielle, donc d'aucuns lui prêtent des mauvais esprits, mais bon, c'est pas qu'on n'ait pas d'exemple non plus sur le continent. Et puis le Sénat qui pourrait apporter de l'eau à son moulin, les tiers évidemment qu'il pourrait désigner lui-même. Alors ça, c'est beaucoup plus inquiétant, évidemment.
On soupçonne du clientélisme politique.
Exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pas qu'il ne soit pas aussi habitué du fait. On le soupçonne de népotisme. Je rappelle que son fils est député, que son beau-frère...
Commission de la Défense.
À la Commission de la Défense. Il a dit qu'il ne sait pas lui qui lui a posé. Il avait même un candidat en face de lui. Donc bon, alors il se défend comme il peut.
Donc c'est pas papa qui m'a nommé.
Exactement, c'est pas papa qui m'a nommé. Mais ces soupçons de népotisme, plus tout ça, alors évidemment, ça fait craindre aux gens et aux Maliens. Rappelons quand même qu'ils ont vécu une dictature. Hein. Donc les Maliens, ce n'est pas des perdants de l'année. Ils ne vivent pas ça comme quelque chose de nouveau. Ils n'ont pas envie de donner un blanc-seing comme
Mais
ça.
Mais qu'est-ce qui lui a pris au président Ibeka d'engager cette initiative que, de toute façon, je veux dire, est cousue de fil blanc à un an d'une présidentielle? Avec tout ce que vous venez de dire, il est évident qu'on avait affaire à une démarche opportuniste. Je pense que cette affaire a fait long feu. On n'en parlera plus. Et juste encore un détail, c'est que dans ce texte, il y avait quand même quelque chose d'assez pernicieux. C'est que vous disiez, vous rappeliez qu'il était question de créer des régions. En fait, en interprétant le texte, on se rend compte simplement qu'on allait mettre en place une forme de fédéralisation du Mali. C'est-à-dire arriver à un État fédéral, c'est-à-dire renoncer, acter le fait que le Mali, un et indivisible, unitaire, avait vécu. Et ça aussi, ça a été rejeté par la population. Parce que n'oubliez pas que Ibeka, en prenant le pouvoir, a fait campagne d'abord sur un engagement qui était central dans sa campagne, la restauration de l'intégrité du territoire et la réunification du Mali. L'échec est patent à un an de la présidentielle et le seul acte fort qu'il pouvait poser pour masquer cet échec, c'était cette tentative qui vient donc évidemment de faire long feu.
Voilà, alors ce référendum est un pari en politique, il faut parier, mais un pari apparemment perdu pour l'instant pour Ibeka. RFI TV 5 Monde, on passe à notre deuxième et dernier sujet hein, d'Afrique Presse, le procès des biens mal acquis ici à Paris, contre Teodoro Nguema, le vice-président équato-guinéen, alias Théodorine. 100 millions d'euros de patrimoine mobilier et immobilier dans cette affaire de présumé bien mal acquis en France par Théodorine Obiang, le vice-président équato-guinéen, accessoirement fils de son père, qui lui-même est le chef de l'État. Alors, ce sont deux ONG françaises qui ont porté l'affaire devant la justice. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, un commentaire, Maria, sur cette ligne de défense procédurale, en quelque sorte, de Malabo, qui nous explique qu'on ne peut pas juger cette affaire en France parce que les faits présumés incriminés, c'est-à-dire les détournements de fonds publics qui ont permis de financer ce train de vie du jeune vice-président, eh bien, ces détournements ont été opérés à l'étranger et que donc la justice française n'est pas habilitée à le juger, d'autant plus qu'il est couvert par l'immunité puisque c'est un dirigeant d'un État souverain, Maria. Alors cet argument apparemment ne passe pas.
C'est une ligne de défense assez classique. Dès qu'on est confronté à des affaires de justice qui concernent des dirigeants africains, pour le dire clairement, des dictateurs africains, qui, de manière indécente, pille leur pays dans cette histoire. Alors évidemment, ce procès est très important parce que c'est le premier sur les biens mal acquis. C'est une longue procédure faite par des ONG qui a duré 10 ans. Mais ce qu'on voit, quand on regarde le détail de ce qui est reproché à ce vice-président, fils du plus vieux président sur le sol africain, puisque son père est chef de l'État depuis 1979, quand on voit le catalogue des voitures, des palaces, de l'immeuble avenue Foch, et qu'on sait que dans ce pays, la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable, qu'ils sont au 138e rang de l'indice de développement humain, alors que le pays est immensément riche, qu'ils ne sont pas très nombreux, ils sont 700 000, 600 000...
Moins d'un million.
Moins d'un million, en tout cas. Il y a du pétrole depuis 91, avant il y avait du bois. En termes de PIB, il est au 45e rang. Mais en termes de développement humain, au 138e rang, ça dit tout. Et on dépasse, dans le cas de Théodorine...
C'est la conséquence de cette prédation.
Mais là, on dépasse même tous les records. C'est vraiment, on est dans un film de Martin Scorsese. C'est un personnage de film noir. Cette indécence qu'elle soit exposée aux yeux de tous, c'est déjà quelque chose de très salutaire. Alors, les avocats, ils font leur job. Il faut bien qu'ils trouvent une ligne de défense. Théodorine Obiang ne sera pas jugée dans son pays. Pour l'instant, le continent africain, même s'il y a eu le précédent de Dakar avec Hissène Habré, n'entame pas des poursuites contre des dictateurs qui martyrisent leur peuple en réalité.
Qui ont piqué à la caisse. Il y a eu le précédent de Dakar quand même.
Il y a eu
un procès.
Ces choses-là évoluent. La justice internationale est une longue marche qui prend du temps, mais qui obtient des résultats. Maintenant, on voit que Théodorine Obiang a des ennuis seulement en France. Il y a un procès en Suisse. Il est plutôt persona non grata aux États-Unis. Oui. L'Espagne s'intéresse à son cas.
Le Brésil passe au laser, c'est bien.
Voilà. Donc, enfin, on va peut-être arriver à ce que cet étrange personnage qui est connu plus par ses débauches que pour son action en tant que vice-président, finalement soit stigmatisé et peut-être à rendre des comptes.
Un réquisitoire, ça n'a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre terme à propos de Maria, qui a tout à fait raison. En tout cas, les éléments sont là pour en témoigner. Fatimata, comment expliquer finalement ce mécanisme de détournement d'argent qui a été rappelé dans un rapport publié la semaine dernière par Human Rights Watch sur des mécanismes mis en place par la famille Obiang pour détourner de l'argent, uniquement financer des trains de vie. C'est-à-dire que cet argent va dans des soirées, va dans des dépenses somptuaires, dans des yachts, à travers le monde.
À ce niveau-là, c'est pas du détournement, c'est pas du vol, c'est abject, c'est tout ce que vous voulez, c'est une caricature. C'est une caricature de ce qu'un dictateur africain ou autre, hein, parce qu'il y a d'autres dictateurs, malheureusement, l'Afrique n'a pas l'apanage de ça, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce système qui est mis en place est grave. Alors évidemment, le côté anecdotique du fait qu'il finance ses soirées, c'est une chose, mais ça dépouille un pays, voilà, un petit pays qui fait la moitié de la taille du Qatar. C'est intéressant de le comparer à un pays comme ça. C'est la moitié de la taille du pays, donc 22 000 km². C'est 2 millions d'habitants au Qatar versus 800 000 en Guinée équatoriale. C'est un tout petit pays, donc, qui a les moyens de survivre largement. La Guinée équatoriale est en train de construire, avec 80% de son budget, une troisième capitale, alors que le pays n'a pas l'eau courante. Ouais. 50% de la population n'a pas l'eau courante. Et dans cette construction de cette troisième capitale, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand une entreprise étrangère s'installe en Guinée équatoriale, il faut qu'il y ait un partenaire local qui détienne 35% de cette société.
Et la famille Obiang,
exactement. En sachant que la famille Obiang détient le monopole absolu sur tout ce qui est construction et sur le ciment et les exportations de ciment. Donc, c'est de la construction. Donc, évidemment, c'est le jackpot assuré.
Voilà. Alors, sur ce qui apparaît, hein, Francis, comme un véritable scandale, hein, que ces détournements faramineux d'argent public, alors qu'effectivement c'est au détriment d'un pays tout entier, moins d'un million d'habitants, 700 000 habitants, 800 000, et qui souffre finalement effectivement de tout ça. Et quand on parle de souffrance, c'est le domaine éducatif, c'est l'eau, c'est le sanitaire.
Vous savez que ces procès sont assez compliqués, parce que ce qui aujourd'hui n'est pas admis l'a été pendant très longtemps.
Ouais,
c'est-à-dire que pendant des années, les pays d'accueil des biens publics n'étaient pas très regardants sur la provenance et la nature des fonds qui étaient dépensés chez eux. Parce que les choses ont changé grâce à la montée des opinions publiques et grâce à la montée de la société civile qui a dit « maintenant ça suffit ». Parce que pendant très longtemps, tout se passait évidemment entre État africain et État français. Donc on fermait les yeux évidemment sur les appartements qui étaient acquis, à Tire-Larigot, avenue Foch. Ça ne dérangeait personne. C'est devenu aujourd'hui immoral. Et c'est très bien ainsi. Mais il y a un deuxième procès effectivement à faire. Vous avez raison. C'est le procès de tous ceux qui, directement ou indirectement, ont profité de ces biens mal acquis. Ah, oui. Y compris des banques françaises par exemple. C'est important. J'allais terminer en disant que c'est un procès qui est emblématique et compliqué. Il y en aura d'autres certainement. Compliqué parce que il faudra prouver évidemment, il faudrait que le tribunal prouve que ces fonds sont réellement illicites. Deuxièmement, il faudra, et pour le fond du procès, et là c'est évidemment l'aspect philosophique de ce procès, c'est-à-dire prouver que ce qui est considéré ici comme un délit ne l'est pas forcément.
Voilà, ainsi prof Afrique Presse, rappelons que c'est Transparency International et Sherpa, deux ONG qui ont porté plainte. Hein. Il y a une plateforme de partis politiques qui s'est invitée dans ce procès de l'opposition guinéenne, équato-guinéenne. Voilà, merci Maria Malagardis, merci Francis Laloupo et à vous Fatimata Wansanya, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Afrique Presse prend ses quartiers d'été sur TV5 Monde à partir de ce 23 juin. Je vous donne rendez-vous quant à moi samedi prochain pour une édition uniquement sur RFI. Puis Afrique Presse reprendra sur RFI et TV5 Monde le 8 septembre prochain 2017, bien sûr. Merci de votre fidélité.